Bienvenue à l'émission Les Voix de service extra de ce 6 septembre 2017. Au menu culturel, un téléthon après Harvey, mettant en vedette Beyoncé, Barbara Streisand et Oprah Winfrey. Des nouvelles de la Mostra de Venise, Oliver Jones, le Montréalais, la petite Bourgogne célèbre un pianiste bien ancré dans son histoire. Et on commence avec une nouvelle du Journal de Montréal. Le million pour Patrick Senecal, l'auteur de livres d'horreur joué d'un bassin de lecteurs des plus fidèles. Ainsi, Patrick Senecal se joint à un club sélect composé d'une dizaine d'écrivains, parmi lesquels on compte Louise Tremblay-Descienbres, Brian Perrault, Michel Tremblay, Marie Gray et Arlette Cousture, pour ne nommer que ceux-là. C'est très flatteur et très valorisant. Par contre, je ne suis pas tombée en bas de ma chaise en apprenant la nouvelle parce que je savais que j'approchais tranquillement du million, a dit le principal intéressé en entrevue. Alors on peut lire en amorce grâce à un bassin de lecteurs fidèles et des romans qui ont fait de lui une référence en matière de littérature d'horreur. Patrick Senecal a récemment franchi le cap du million de livres vendus, un exploit que peu d'auteurs de fiction peuvent se targuer d'avoir réalisé au Québec. Ses plus grands succès, en fait, c'est 5 plus grands succès. 5150 rue des Ormes, Le Passager, Sur le Seuil, Alice et Les 7 jours du Talion. C'est dans Le Devoir, Guillaume Bourgault Côté. Au fil des ans, Oliver Jones a eu toutes les récompenses possibles. 6 doctorats honorifiques, des Juno, des Félix, en plus d'être fait chevalier et officier par les différents ordres de gouvernement. Juste avoir son propre timbre. Jusqu'à avoir son propre timbre. Mais dans ce concert de louanges, c'est encore ce qui vient de son quartier d'enfance qui le touche le plus et il en a eu une nouvelle preuve mardi. Le maire du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, Benoît Doré, a en effet annoncé mardi qu'un centre communautaire sera renommé en l'honneur du pianiste né en 1934 dans la petite Bourgogne. Le vote devant officialiser le changement se tiendra le 21 septembre. Ce ne sera pas le premier lieu montréalais à être associé aux musiciens. Montréal-Nord, où il a habité 38 ans, lui a notamment dédié une salle de spectacle. Ni même le premier hommage de la petite Bourgogne, M. Jones, à son piano public et sa murale dans le quartier. Mais aucun ne sera plus symbolique à ses yeux parce qu'il touche au plus près de l'héritage qu'Oliver Jones espère léguer, c'est-à-dire un lieu ancré dans la communauté qui souligne un engagement constant envers un quartier difficile, dit Benoît Doré, et les jeunes qui l'habitent. Oliver Jones, c'est le genre de personne qui appelle pour demander à aller visiter des CPE et à parler aux enfants, racontait le maire Doré, mardi matin en marge d'une conférence de presse pour annoncer la décision du conseil d'arrondissement et la tenue d'un spectacle en hommage aux musiciens samedi prochain. Il a eu la chance de tomber sur Daisy Peterson quand il était jeune, la sœur de l'autre grand pianiste du quartier Oscar Peterson, qui fut sa première professeure de piano, poursuit M. Doré. C'est la musique et le piano qui lui ont permis de sortir du quartier, de se révéler. Il connaît l'importance de dire aux jeunes combien la musique et les arts peuvent être intéressants. Mais plus encore, de leur rappeler qu'il faut écouter cette voix qui dit qu'on peut réussir même si on habite un quartier difficile. Et le Sud-Ouest, ça demeure ça aujourd'hui. Au-delà de la figure emblématique qu'est devenu Oliver Jones, le musicien, c'est davantage l'œuvre de l'homme que l'arrondissement veut inscrire dans son patrimoine durable, explique Benoît Doré. Ce qu'on veut honorer dans le paysage de notre quartier, c'est qu'il a continué à porter dans son cœur l'endroit où il est né et qu'il y est toujours revenu. Un attachement qui n'était pas aussi marqué chez Oscar Peterson, dira-t-on. présent à l'annonce faite au bien-nommé parc des Jazzmen à un jet de pierre de la rue Workman où il a passé les 7 premières années de sa vie, Oliver Jones affichait la même humilité tranquille que d'habitude. Devant les quelques personnes présentes, il a pris le temps de saluer la mémoire de ses parents qui seraient fiers et de promettre qu'il continuera à s'impliquer dans la petite Bourgogne jusqu'à 105 ans, si possible. Beyoncé, Barbara Streisand, Blake Shelton et Oprah Winfrey seront les têtes d'affiche d'un téléthon bénéfice d'une heure pour les victimes de l'ouragan Harvey. Le 12 septembre, Hand in Hand sera diffusé simultanément sur les chaînes américaines à ABC, CBS, NBC, Fox et CMT, tout en étant transmis en direct à partir de 20 heures sur Facebook, YouTube et Twitter. De nombreuses autres personnalités participeront au spectacle, George Clooney, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Jamie Foxx, Matt Lauer, Kelly Rowland et Reese Witherspoon y sont notamment attendus. On prévoit que d'autres noms s'ajouteront d'ici la semaine prochaine à la longue liste de célébrités prenant part à cet événement d'envergure. Les dons amassés seront remis à 5 organisations dont Habitat pour l'Humanité, Save the Children et Direct Relief ou Direct Relief ou Direct Relief. Le comédien Chris Pine, bien connu pour son rôle du Capitaine Kirk dans la franchise de films Star Trek, incarnera l'ancien politicien Robert F. Kennedy pour une série produite par le site de vidéo en streaming Hulu, a annoncé le magazine Deadline.com hier. Pour Hulu ou Hulu, il s'agit de la suite logique d'une autre série 11-22-63, consacré au président américain John F. Kennedy, assassiné le 22 novembre 1963. Rappelons que Robert Kennedy, frère du président, a été assassiné en juin 1968 en pleine course à l'investiture du Parti démocrate. Le projet est inspiré de l'ouvrage Bobby Kennedy, The Making of a Liberal Icon de Larry Tye.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre pervenche déjà pliée. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines qui sèchent leur dentelle au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges. Sèche-linge, plus de lèche, vitrine à ses caches, poitrine que tu séchais. Et dans ce interrompt ma transe, puis des épais rideaux.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
Sur Canal M, on vient d'entendre Renan Luce, les voisines.
Et on poursuit avec les voix de service extra. Yannick Nézet-Séguin, c'est vraiment extra, empoigne le monstre. L'Orchestre métropolitain ouvre la saison symphonique avec la 5e symphonie de Bruckner. C'est dans le Devoir. Sous la plume de Christophe Husse, l'Orchestre métropolitain et Yannick Nézet-Séguin ouvrent la saison 2017-2018 avec la 5e symphonie de Bruckner, probablement le plus complexe édifice symphonique imaginé par un grand compositeur. Le concert de jeudi à la Maison symphonique de Montréal, enregistré par Atma, sera précédé ce mercredi soir d'un concert à Verdun et renouvelé à Pointe-Claire vendredi. L'enregistrement en concert de cette 5e mettra un terme à l'intégrale Bruckner au disque entamé en février 2007 avec la parution chez Atma de la 7e symphonie. Une intégrale Bruckner à 42 ans. Le parcours est foudroyant, même si le chef québécois n'est pas le plus jeune à avoir gravé une somme aussi intimidante. Daniel Barenboim avait 38 ans en mars 1981, lorsqu'il entrait au Medina Temple de Chicago pour enregistrer la 2e symphonie et parachever son intégrale pour Deutsche Grammophon, sa première de trois. Liberté a choisi son nouveau rédacteur en chef en la personne de Jean Pichette. Ce dernier prendra la relève de Pierre Lefebvre, qui était à la barre du magazine depuis 2004, connu des lecteurs du Devoir, où il a œuvré de nombreuses années. Monsieur Pichette assurera l'orientation rédactionnelle de la revue en plus de ses fonctions actuelles de directeur. Le président du conseil d'administration, Gérald de Grandmont, annoncé mardi sa nomination en précisant qu'avec son expérience du monde de l'édition et des débats d'idées, il était la meilleure personne actuellement pour prendre le relais et poursuivre la ligne éditoriale établie autour des deux pôles de l'art et du politique. Le principal intéressé a pour sa part insisté sur la nécessité pour Liberté de proposer un regard convoquant à la fois intelligence et imagination afin d'élargir les horizons de pensée. M. Pichette connaît bien l'environnement des magazines, ayant été rédacteur en chef de la revue Relations auparavant. Il a aussi été professeur à l'École des médias de l'UQAM et conseiller littéraire. Les vedettes continuent de défiler sur le tapis rouge à la Mostra de Venise. Hier, Jennifer Lawrence a fait une apparition remarquée quelques minutes avant la projection du film Mother dans le cadre de la 74e reprise du célèbre festival de films. Le film, signé par l'Américain Darren Aronofsky, met en scène un couple, Jennifer Lawrence et Javier Bardem, qui voit sa relation se détériorer sérieusement avec l'arrivée d'invités surprises inquiétants, Ed Harris et Michelle Pfeiffer. Lui est un écrivain égocentrique en panne d'écriture avec un passé mystérieux. Elle, une femme plus jeune rêvant d'être mère, mais qui se dévoue à son mari créatif et rénove son immense maison isolée qui a jadis brûlé. Le scénario du film, plutôt sombre, a été écrit en 5 jours. Deux œuvres pour une esplanade. Montréal inaugure l'œuvre source du sculpteur Jaume Plenza en même temps que la nouvelle entrée Bonaventure. Après le béton l'art, c'est ce mercredi que la ville de Montréal inaugure source l'œuvre d'art public du sculpteur espagnol Jaume Plenza, J-A-U-M-E, et son nom de famille P-L-E-N-S-A, qui orne la toute nouvelle entrée Bonaventure au sud de l'île de Montréal. Cette œuvre, commandée par André Desmarais et France Chrétien Desmarais, qui la prête par ailleurs aux Montréalais pour une période de 25 ans, est dévoilée à l'occasion de l'ouverture du parc situé au centre de la nouvelle entrée à l'extrémité Wellington du nouvel espace vert. Vendredi, une autre œuvre intitulée « Dendrite » de Michel Debroin sera dévoilée à l'autre extrémité du parc. La sculpture représente une forme humaine composée d'un enchevêtrement de lettres et dont les racines se perdent dans le sol. Le nouveau titre de la chanteuse américaine Taylor Swift a pris hier la tête du palmarès américain, réalisant au passage les plus fortes ventes de l'année sur une semaine pour un single mettant fin au règne du tube planétaire Despacito. Look What You Made Me Do, un single sombre au rythme très dance, le premier de l'album à venir de Taylor Swift, Reputation, a repoussé Despacito à la deuxième place du top 100 du magazine américain Billboard, qu'il dominait depuis 16 semaines. Pour terminer, la chanteuse Charlotte Cardin lance aujourd'hui 4 chansons inédites sur iTunes. S'y ajoute un vidéoclip pour l'une d'elles, Main Girl, également offert dès aujourd'hui à midi. Les 3 autres singles s'intitulent Paradise Motions, Just Like That et The Kids. L'interprète de Big Boy sortira également un EPK Electronic Press Kit de 6 titres aux États-Unis et en France. Cardin se joindra à la tournée nord-américaine de Nick Murphy, nouvel alias de Chet Faker, à partir du 10 septembre. Elle avait interprété ses 4 nouvelles chansons lors de son dernier passage au Métropolis au mois de juin. Elle remontera d'ailleurs sur cette scène montréalaise 2 soirs de suite, les 22 et 23 septembre. Actualité sportive, parlons donc de ski de fond. Harvey rassuré après une frousse, c'est un article de Simon Drouin dans la presse d'aujourd'hui. Tom Dumoulin et ses collègues ne sont pas les seuls grands athlètes qui ont atterri à l'aéroport Jean Lesage hier après-midi. Quelques heures après le passage des cyclistes du Grand Prix de Québec devant les représentants des médias, Alex Harvey a fait une arrivée beaucoup plus discrète de retour d'un stage d'entraînement en Italie, où il a croisé nul autre que Dumoulin. Après avoir remonté le Stelvio en ski à roulettes, Harvey s'est retrouvé dans le même restaurant que le gagnant du dernier Giro, qui avait sauvé son maillot rose à cet endroit 3 mois plus tôt. Dumoulin cassait la croûte au milieu d'une sortie avec le Belge Maxime Montfort. Il essaya de manger sa pizza et une 40aine de personnes ont dû lui demander une photo ou un autographe, a raconté Harvey, qui a recroisé le rouleur néerlandais sur son vélo de contre-la-montre le lendemain au milieu d'une piste cyclable de Livigno. À l'instar de Dumoulin, Harvey se sert de la commune italienne comme base d'entraînement en altitude. Le champion mondial du 50 km y a passé une 20aine de jours avec ses coéquipiers. Pour cette phase de grand volume, il a accumulé les kilomètres en ski à roulettes, en vélo de montagne et en course à pied. Le temps chaud en Europe a forcé la fermeture du glacier du Stelvio et l'annulation des quelques jours de ski prévus par le clan canadien. Il a neigé juste avant qu'on arrive, les conditions auraient été belles, mais il y avait trop de crevasses, a détaillé Harvey. Rien de dramatique pour le fondeur de Saint-Féréol, pour qui un séjour sur neige à cette période de l'année est plus une façon de briser la routine qu'autre chose. Plus important, l'athlète qui fêtera ses 29 ans vendredi a pu se rassurer sur l'état de son genou droit sérieusement amoché 2 semaines avant son départ. Harvey effectuait des fentes avec des poids quand il a ressenti une vive douleur à son articulation. Sur le coup, il avoue avoir un peu paniqué. Au début, c'est sûr que ça a été épeurant parce que le premier jour, je ne pouvais presque plus marcher. C'était vraiment enflé. Un examen d'imagerie par résonance magnétique a révélé une déchirure de 7 mm sur le tendon rotulien. Une semaine plus tard, la diminution de l'inflammation a permis de réaliser une échographie qui a rassuré tout le monde. La lésion s'apparentait plutôt à une micro-déchirure. « Plus de peur que de mal », a résumé Harvey, qui a néanmoins dû se restreindre à un protocole progressif de retour à la course à pied. « Ça aurait pu être plus grave », a-t-il ajouté, soulignant qu'une déchirure complète ou partielle aurait pu compromettre ses performances ou même sa participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Ses 3 séances d'entraînement en intensité en Italie, dont cette montée d'une 20aine de kilomètres à travers les 48 lacets du Stelvio, lui ont plutôt démontré que sa forme était optimale à l'approche de l'automne. « C'est 9 ou 10 sur 10 », a avancé Harvey. Voyons voir si l'air de Livigno a eu le même effet sur Tom Dumoulin. Les autorités brésiliennes ont lancé mardi une vaste opération à l'encontre du chef de la candidature de Rio aux Jeux olympiques 2016, soupçonné d'avoir organisé l'achat de voix au sein du Comité international olympique, CIO, pour décrocher l'organisation des Jeux. Carlos Nuzman, 75 ans, était un élément central du réseau présumé de corruption ayant permis à la cité Carioca d'obtenir les premiers JO de l'Amérique du Sud en août 2016, a affirmé lors d'une conférence de presse la procureure Fabiana Schneider. Dans la matinée, sa maison a été fouillée par des officiers de la police fédérale. Ils ont emporté des sacs contenant de possibles preuves. Au total, 70 officiers de la police judiciaire brésilienne, accompagnés de leurs homologues français et américains, ont mené des perquisitions dans 11 endroits différents, selon la police. Sloane Stephens a ravi le public en surprenant la Lettonne Anastasia Sevestova 6-3, 3-6 et 7-6 mardi, atteignant ainsi les demi-finales des internationaux de tennis des États-Unis. L'Américaine de 24 ans, 83e au monde, a ainsi écarté de sa route la 16e tête de série. Stephens n'a jamais eu de retard dans le bris d'égalité où Sevestova a commis 5 fautes directes. Stephens a brillé avec un coup gagnant en croisée pour 2-1, puis elle a triomphé sur un superbe revers en parallèle. Stephens accède aux demi-finales du tournoi new-yorkais pour la première fois de sa carrière. Chaque joueuse a mérité 4 bris et la comparaison des coups gagnants et des fautes directes a aussi été très serrée. 31-25 pour l'Américaine, 39-41 pour la Lettonne. Stephens aura comme prochaine rivale sa compatriote Venus Williams ou bien la Tchèque Petra Vitova qui croisait le fer mardi soir. Chez les hommes, l'Espagnol Pablo Carreño Busta a prévalu 6-4, 6-4, 6-2 contre l'Argentin Diego Schwartzman. 2 jours après avoir éliminé le jeune Canadien Denis Shapovalov en 3-7 de 7-6, Carreño Busta, 12e tête de série, est passé en demi-finale d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière. Carreño Busta n'a toujours pas perdu de manche à New York cette année. En demi-finale, il affrontera l'Américain Sam Querrey, 17e, ou le Sud-Africain Kevin Anderson, 28e, qui concluait le programme de la soirée mardi. Querrey a la chance de devenir le premier Américain à se tailler une place en demi-finale à Flushing Meadows depuis Andy Roddick en 2006. La Ville de Montréal a officiellement déposé sa candidature à titre de ville hôtesse de la Coupe du monde de soccer de 2026. C'est ce qu'a fait savoir le maire Denis Coderre mardi matin. Cette annonce cadre dans un projet sans précédent dans l'histoire de la FIFA, alors que trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, ont révélé en juillet dernier qu'ils allaient déposer une candidature conjointe. Le maire de Montréal avait alors reçu une lettre de Soccer Canada indiquant que Montréal faisait partie des villes invitées à participer au processus de candidature canadien des villes hôtesses. C'est dans cet esprit que la Ville de Montréal a déposé son cahier de candidature au comité conjoint de candidature, a précisé le maire Coderre. Les autres villes canadiennes qui ont été invitées par Soccer Canada sont Toronto, Vancouver, Ottawa, Regina, Calgary et Edmonton. Je crois que notre époque a été la meilleure en ce qui a trait aux athlètes. Si mes records étaient destinés à être battus, ce serait arrivé pendant notre époque. Pour cette raison, je pense que j'en ai encore pour 20, pour 15 ou 20 ans. Qui dit cela? Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt. Et pour terminer, le Britannique Christopher Froome a remporté le contre-la-montre individuel et augmenté son avance en tête du classement général de la Vuelta hier. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Laliberté. Allez reposer votre voix, s'il vous plaît. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée, un beau mercredi. Je vous retrouve, j'espère bien, demain.